Annie. Première partie, chapitre 7. À son arrivée à Paris, tout occupé de l'invention d'une bouée lumineuse, il avait été consulté un chimiste dont les livres qu'il avait longuement travaillés lui inspiraient confiance et dont le nom faisait autorité dans la science, François Sauval. Et, pendant assez longtemps, il avait poursuivi, sous la direction de celui-ci, une série d'expériences sur les matières à employer pour la production de l'éclairage dans l'eau. De là étaient nées des relations entre eux, bienveillantes chez le maître, très attentif à séduire la jeunesse, respectueuse chez l'élève, et quand il avait un conseil à demander ou un doute à éclaircir, c'était toujours à Sauval qu'il s'adressait. Sauval était chimiste parce que son grand-père ainsi que son père l'avaient été, et parce qu'avec son sens juste de la vie, il avait, tout jeune, compris les avantages qu'il y avait pour lui à profiter du nom et de l'autorité qu'il s'était acquis dans le monde scientifique et à se mettre en état d'héritier des positions officielles qu'ils avaient successivement occupées. Mais, plus que chimiste encore, plus que savant, il était, bien qu'il s'en défendît, un homme d'affaires incomparable, devant qui l'agré le plus fin, l'avoué le plus retors, n'étaient que des écoliers. En écoutant d'une oreille complaisante les projets et les rêveries de Barinck, il avait sagement douché son ambition d'une main impitoyable et, avec l'expérience que lui donnait son autorité et sa situation, il lui avait prouvé qu'il ne devait pas chercher à sortir de l'ordre de recherche dans lequel il avait eu la chance de réussir. « Tenez-vous-en à l'industrie », ne cessait-il de lui répéter. « Gagnez de l'argent, et, puisque vous n'avez pas pris dès le départ le chemin qui conduit au mandarinat scientifique, laissez la science aux mandarins. Ah, si j'étais à votre place, et si j'avais vos aptitudes pour les affaires, quelle fortune je ferais ! » Faire fortune, gagner de l'argent, était le refrain de sa conversation. Et s'il est vrai que le mot qui revient le plus souvent sur nos lèvres soit celui qui donne la clé de notre nature, on pouvait conclure en l'écoutant qu'il était un homme d'argent. Cela surtout, avant tout, et par-dessus tout, avec un but aussi généreux que touchant, qui était de donner à chacune de ses 5 filles 1 000 000 en la mariant. Le type du savant gauche, simple, maladroit, timide ou rébarbatif, qui ne sort pas de son laboratoire, ignore le monde, ne voit dans l'argent qu'un métal ductile et malléable qui fond vers 1000 degrés, et peut se combiner avec l'oxygène, n'était nullement celui de Sauval qui, au contraire, représentait, mieux que tout autre, le savant aimable, élégant, homme du monde autant qu'homme d'affaires, assez prudent pour ne pas se laisser exploiter par les industriels et assez habile pour les exploiter lui-même par des procédés perfectionnés qui en exprimaient jusqu'à la dernière goutte la substance utilisable. Toutes les positions officielles que l'État peut donner, Sauval les avait successivement occupées ou les occupait encore à l'Institut agronomique, au Conservatoire, au Gobelin, au Muséum, à l'École centrale, à la Préfecture de la Seine, à la Préfecture de police. De plus, il était le directeur conseil de nombreuses fabriques de produits chimiques ou pharmaceutiques qui payaient de cette façon son influence. Mais, comme tout cela, si important qu'en fût le total cumulé, n'était point encore assez gros pour son appétit et ne pouvait pas lui gagner les millions qu'il voulait, il les demandait à l'industrie en prenant des brevets dans les branches de la chimie où il y a de l'argent à gagner, celle des engrais et celle des matières colorante. Ces brevets, il ne les exploitait pas lui-même, retenu par sa situation, mais il les cédait à des commerçants, à des spéculateurs que cette situation précisément éblouissait, et qui se laissaient entraîner par l'espoir de produire avec rien quelque chose de valeur, tout comme les dupes des anciens alchimistes espéraient obtenir la transmutation des métaux. Comment n'eussent-ils pas subi le prestige de son nom, qu'il savait très habilement faire tambouriner par les journaux? Ce n'était pas avec un pauvre diable d'inventeur qu'il traitait, mais avec un savant dont les titres occupaient une longue suite de lignes dans les annuaires. Ce n'était pas dans un galta que les signatures s'échangeaient, mais dans une noble maison donnée par l'État, sur la cour de laquelle s'ouvraient les portes d'écurie habitées par 4 chevaux, et de remise, abritant 3 voitures élégantes dignes du mondain le plus correct. En conseillant à Barinck de gagner de l'argent, jamais Sauval ne lui avait conseillé d'exploiter un de ses nombreux brevets. Seulement, ce qu'il ne disait pas franchement, il l'insinuait avec des finesses auxquelles on ne pouvait pas ne pas se laisser prendre. Mais, féru de ses idées en vrai inventeur qu'il était, Barinck avait longtemps résisté à ses avances. Pourquoi acheter les découvertes des autres quand on en a soi-même à revendre? Ce n'était pas du manque d'idées qu'il souffrait, mais bien de ne pouvoir pas faire accepter les siennes. Cependant, à la longue, exaspéré par l'hostilité qu'il rencontrait, découragé par l'indifférence qu'on lui opposait, écrasé par l'injustice, il avait fini par se demander si ses idées, que tout le monde repoussait, valaient réellement quelque chose. Si on se les appropriait par d'adroites modifications, n'était-ce pas parce qu'elles manquaient d'une forte empreinte personnelle? Enfin, s'il ne réussissait en rien maintenant, n'était-ce pas parce qu'il avait épuisé sa veine? Il y a du joueur dans tout inventeur, et quel joueur ne croit pas à la chance? Si la sienne déclinait, celle de Sauval s'affirmait chaque jour davantage, à ce point qu'il ne touchait pas à une chose sans la réussir. Dans ces conditions, ne serait-ce pas pousser l'infatuation jusqu'à l'aveuglement que de s'obstiner dans ses luttes stériles au lieu de saisir l'occasion qui s'offrait à lui? Bien souvent, Sauval lui parlait d'expériences poursuivies depuis longtemps dans son laboratoire qui, le jour où elles aboutiraient, seraient pour certaines matières extraites du goudron de houille ce que la découverte de Lightfoot avait été pour le noir d'aniline. Un jour, en venant consulter Sauval, il aperçut exposées en belle place des bandes de calicot teintes en rouge, en ponceau, en jaune, en bleu, en violet. « Je vois que ces échantillons vous intéressent, » dit Sauval, qui avait suivi ses regards. « Ils vous intéresseront encore bien davantage quand vous saurez que ces couleurs, qui ont subi l'opération du vaporisage, sont, pour quelques-unes, aussi indestructibles que le noir d'aniline. » Sans être chimiste de profession et sans avoir étudié spécialement la chimie des matières colorantes, Barinck savait cependant qu'on ne possédait encore que le noir d'aniline qui fut indestructible, et que les autres couleurs qu'on essayait d'extraire de la houille ne présentaient aucune solidité. En disant que la teinture de ces bandes de calicot était aussi indestructible que celle du noir d'aniline, Sauval annonçait donc une découverte considérable qui allait produire une révolution dans l'industrie des étoffes et apporter à son inventeur une fortune énorme. « Croyez-vous que vous n'auriez pas mieux fait, mon pauvre Barinck, de suivre cette voie pratique que je vous ouvrais ?» dit Sauval. « Que celle qui vous a mené dans le bagne où vous vous débattez ? Ah, si, au lieu d'être un savant, fils et petit-fils de savant, j'étais un industriel. Si, au lieu d'être enchaîné par ma situation, j'étais libre, quelle fortune je ferais ? tandis que je vais me laisser rouler et finalement dépouiller par des coquins qui se moqueront de moi. Que n'ai-je un gendre dans l'industrie ? Il y a des moments où, pensant à l'avenir de mes filles, je me demande si je ne manque pas à mes devoirs de père en ne me démettant pas de toutes mes fonctions pour exploiter moi-même mes brevets. Ainsi engagé, l'entretien était vite arrivé à une proposition pratique. Au lieu de se démettre de ses fonctions, Sauval cédait ses brevets à Barinque, qui avait à ses yeux le grand mérite de n'être point un commerçant de profession, c'est-à-dire un exploiteur, et lui inspirait toute confiance. Par ce moyen, il assurait la fortune de ses filles, et d'autre part, il faisait celle d'un brave garçon pour qui il avait autant de sympathie que d'estime. Cette cession, il la consentait aux conditions les plus douces. 400 000 francs pour le prix des brevets, et en plus, pendant leur durée, une redevance de 10% sur le montant brut de toutes les ventes des produits fabriqués. Comme ce qu'on vendrait 150 ou 200 francs le kilogramme ne coûterait pas plus de 3 ou 4 francs à fabriquer, il était facile dès maintenant de calculer les bénéfices. Barinque ne pouvait pas ne pas se laisser éblouir par une affaire ainsi présentée, pas plus qu'il ne pouvait pas ne pas se laisser toucher au cœur par l'amitié dont son maître lui donnait une si grande preuve. Enfin, découragé par ses déboires, il ne pouvait pas non plus ne pas reconnaître que ce serait folie de s'obstiner dans ses rêves creux au lieu d'accepter ses propositions généreuses. Il est vrai que, pour les accepter, il fallait pouvoir exécuter les conditions sous lesquelles elles étaient faites, et ce n'était pas son cas. De son père, il avait reçu environ 200 000 francs, et c'était son seul capital, car les grosses sommes que ses inventions lui avaient rapportées jusqu'à ce jour avaient été dévorées par ses expériences ou englouties dans ses procès. Comment, avec ces 200 000 francs, payer les brevets et faire les fonds pour établir une usine de fabrication? Ce qui était une difficulté, une impossibilité pour lui, n'était rien pour Sauval. Des spéculateurs trouvés par lui achetèrent les brevets de Barinque, bon marché, il est vrai, trop bon marché, beaucoup au-dessous de leur valeur réelle, c'était lui-même qui le disait, mais il paierait comptant, ce qui était à considérer. En même temps, il le marierait à une orpheline qui apporterait une dot de 400 000 francs en argent. De plus, il lui ferait vendre, dans les conditions les plus favorables, une fabrique de matières colorantes établie depuis longtemps, de telle sorte que, tout en organisant la fabrication des produits créés par ces procédés, on continuerait celle des anciens, qui ne seraient pas remplacés par les nouveaux. Il donnerait son concours à cette fabrication et, pour l'en payer, sa redevance de 10% s'étendrait à toutes les ventes que ferait l'usine. Enfin, il obtiendrait d'une fabrique de produits chimiques, dans laquelle il était intéressé, un marché par lequel cette fabrique s'engagerait à livrer, pendant 10 ans, à un prix très au-dessous du cours, toutes les matières nécessaires à la production des nouvelles couleurs. C'était le propre de Sauval de mener rondement tout ce qu'il entreprenait. Ce qui tenait, disait-il, à ce que, n'entendant rien aux affaires, il ne se noyait pas dans les détails. En 3 mois, les brevets de Barinque furent vendus, ses procès abandonnés, son mariage fut fait, l'usine fut achetée, et l'on se trouva en état de marché. L'industrie de la teinture, chauffée par les articles des journaux que Sauval inspirait quand il ne les dictait pas, était dans l'attente de la révolution annoncée. On marcha, en effet, mais, chose extraordinaire, les expériences si concluantes, si admirables dans le laboratoire de Sauval, ne donnèrent pas, industriellement, les résultats attendus. Si les rouges présentaient une certaine solidité, bien éloignée, cependant, de l'indestructibilité du noir d'aniline, les autres couleurs étaient d'une extrême fugacité. Cette chute terrible n'avait pas écrasé Sauval, et même, elle ne l'avait nullement ébranlé. À l'émoi de Barinque, il s'était contenté de répondre qu'il fallait rester calme, parce qu'il voyait clair. Cette déception n'était rien. Il allait se mettre au travail comme il le devait, puisqu'il s'était engagé à faire profiter la fabrique de tous les développements et de toutes les améliorations que ses brevets pouvaient recevoir de ses recherches scientifiques. Et avant peu, ce léger accroc serait réparé. Il voyait clair. En attendant, il n'y avait qu'à continuer la fabrication des anciens produits. Cela sauvait la situation et démontrait combien il avait été sage de faire acheter cette vieille usine au lieu d'en créer une nouvelle qui n'eût pas eu de clientèle. Ce qu'il avait été surtout, c'était avisé pour ses intérêts, puisque sur la vente des produits fabriqués d'après les anciens procédés, il touchait sa redevance. Un peu de patience, ce n'était plus maintenant qu'une affaire de temps. Le succès était certain. Encore quelques jours, encore un seul. Le temps avait marché sans que les couleurs qui devaient bouleverser l'industrie devinssent plus solides. On vendait du rouge, personne n'achetait du ponceau, du bleu, du vert, du jaune. Et, pendant que les perfectionnements annoncés se faisaient attendre, la fabrique de produits chimiques exécutant son marché continuait à livrer chaque jour les matières nécessaires à la fabrication des nouvelles couleurs qu'on ne fabriquait pas, par cette raison qu'on ne trouvait pas à les vendre. La foi que le maître avait inspirée à l'élève s'était ébranlée. À payer la redevance de 10%, le plus clair des bénéfices réalisés sur la fabrication par les anciens procédés s'en allait dans la caisse de Sauval. Et prendre chaque jour livraison de 10 000 kg de produits chimiques qu'il fallait revendre à perte, ou même jeter à l'égout quand on ne trouvait pas à les vendre, conduisait à une ruine aussi certaine que rapide. Cependant, Sauval, qui continuait à rester calme dans son stoïcisme scientifique et à voir très clair, poursuivait ses recherches en répétant son même mot « Patience, encore un jour !» Ce jour écoulé, il en prenait un autre, puis un autre encore. En réponse à ses demandes du maître, l'élève en avait formulé deux à son tour. Ne plus payer la redevance, résilier le marché de la fourniture des produits chimiques. Mais le maître n'avait rien voulu entendre. Puisqu'il lui donnait son temps et sa science, la redevance lui était due. Puisqu'un marché avait été conclu, il devait être exécuté. S'il ne connaissait rien aux affaires commerciales, il savait cependant, comme tout galant homme, qu'on ne revient pas sur un engagement pris. C'était beaucoup pour échapper au procès, dont il avait l'horreur, que Barinque avait accepté les propositions de Sauval, qui semblait devoir lui offrir une sécurité absolue. Cependant, devant ce double refus, il avait fallu se résoudre à plaider de nouveau. Une fille lui était née, il ne pouvait pas la laisser ruiner, pas plus qu'il ne devait laisser dévorer la fortune de sa femme, déjà gravement compromise. Il avait donc demandé aux tribunaux la nomination d'experts qui auraient à examiner si les procédés de Sauval étaient susceptibles d'une application industrielle. À constater que si, dans le laboratoire, il donnait des résultats superbes, dans la pratique, il n'en donnait d'aucune sorte. Enfin, à reconnaître qu'il ne reposait pas sur une base sérieuse et que ce qu'il avait vendu était le néant même. Quelle stupéfaction, quelle indignation pour Sauval! Il croyait bien pourtant s'être entouré de toutes les précautions en ne traitant pas avec un de ces commerçants de profession qui n'achète une découverte que pour dépouiller son inventeur. Mais voilà le terrible, c'est que l'esprit commercial est contagieux et qu'aussitôt qu'on touche aux affaires, on devient un homme d'affaires. Sans doute, il ferait facilement le sacrifice des bénéfices qui étaient le fruit de son travail, et sur ce point, il était prêt à toutes les concessions. Mais il y en avait un que sa position ne lui permettait pas de mettre en discussion, c'était de subir le contrôle d'experts qui, dans la science, ne pouvaient pas être ses pairs. Il fallait donc qu'il se défendît et n'accepta pas qu'en sa personne, le savant fût une fois de plus exploité par le commerçant. L'affaire s'était traînée de juridiction en juridiction, et, pendant que les clercs grossoyaient des monceaux de papier timbré en expliquant longuement la technique des matières colorantes à 2 francs le rôle, pendant que les avocats plaidaient et refaisaient chacun à son point de vue l'histoire de la chimie, pendant que les juges écoutaient, somnolaient ou jugeaient, la situation commerciale de Barinque sombrait, s'enfonçant chaque jour un peu plus. Il lui aurait fallu des capitaux pour faire marcher sa maison en même temps que pour continuer ses procès, et il ne se soutenait plus que par des miracles d'énergie appuyés par des sacrifices désespérés. Alors qu'il pensait faire lui-même sa vie, sans secours d'aucune sorte, au moyen des seules idées qu'il avait en tête, il avait pu abandonner avec indifférence la plus grosse part de son héritage paternel. Aux abois, traqué de tous les côtés, affolé, il revint à Ourteau pour expliquer sa situation à son frère et lui demander de le sauver en consentant une garantie hypothécaire pour une somme de 150 000 francs. Bien que le mot « hypothèque » fût un épouvantail pour Gaston, la garantie fut accordée, sinon sans inquiétude, au moins sans marchandage.
« Puisque tu as besoin de moi, cadet, c'est mon devoir de te venir en aide. »
Ces 150 000 francs avaient été une goutte d'eau. 6 mois après leur versement, c'était du garant que le créancier exigeait par acte d'huissier le paiement de ses intérêts, le garanti étant dans l'impossibilité de se libérer. Les rapports des deux frères, jusque-là affectueux, s'étaient aigris. Un huissier au château, c'était la première fois que pareil scandale se produisait. La lettre qui l'annonçait avait été dure, malgré le parti pris de modération. « Tu n'as donc pas pensé que le « parlant à » pourrait être rempli au nom d'un de mes domestiques, ce qui a eu lieu. » Pour arranger la situation, Madame Barinque avait voulu venir à Ourteau avec sa fille. Gaston n'était-il pas un oncle à héritage? Il importait de le ménager. Au lieu d'aplanir les difficultés, elle les avait exaspérées en insistant plus qu'il ne convenait sur la générosité que son mari avait montrée lors du partage de la succession paternelle. Comment l'aîné pouvait-il admettre la générosité quand il était convaincu que son cadet avait simplement accompli son devoir? Lorsqu'au bout de 8 jours, elle avait quitté le château pour rentrer à Paris, la rupture entre les deux frères était irréparable. Les procès se prolongèrent pendant 18 mois encore, au bout desquels un arrêt définitif prononçait la nullité des brevets. Mais il était trop tard. Barinque, épuisé, n'avait plus qu'à abandonner à ses créanciers le peu qui lui restait, et s'il échappait à la mise en faillite, c'était grâce à la généreuse intervention de Sauval. Un ami le recueillit par pitié dans la petite maison de l'Abreuvoir, et le directeur de l'Office cosmopolitain des inventeurs, qui avait gagné tant d'argent avec lui, le prenait comme dessinateur aux appointements de 200 francs par mois.